Désolé, les égoïstes. Vous ne pourrez plus dire.
Ah oui, mais là, Patricia, ça nous arrange pas de t'emmener. Ah. Il y a plus de place derrière.
Bon, avec ces trois sièges arrière indépendants, nouveau Citroën C5 Aircross hybride rechargeable est aussi généreux que vous. À partir de 419 euros par mois. Portes ouvertes ce week-end.
Tu passes me prendre à 9h ?
Citroën.
LLD 48 mois, 40 000 km, premier loyer de 3 500 euros amené zéro, bonus écologique et prime à la conversion déduit, offre à particulier jusqu'au 30 juin, bonus de 1 000 euros valable pour une commande livrée avant le 30 septembre, si acceptation crédit part, détails sur citroën.fr. Pensez à covoiturer.
Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, l'émission qui fait la part belle à l'histoire, bien sûr, mais aussi à l'amusement, en compagnie du plus suisse des fantaisistes. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver pour un thème très estival cet après-midi. D'ailleurs Stéphane, je sais que vous avez hâte que les congés arrivent. Où comptez-vous passer vos vacances ?
À la clinique du cheveu, c'est la clinique du cheveu à Boulogne, rue Anna Jacquin.
Ça va ? C'est pas ces vacances ?
Non mais franchement.
Ah. Il faut mettre à profit les congés, vous avez raison. Ah.
Non, il faut jamais faire ce genre d'opération l'été.
Pourquoi ?
Parce que ça fait des croûtes. Oh, je vous expliquerai. Il faut faire ça l'hiver.
Mais est-ce qu'on peut faire ça sans que personne s'en rende compte ?
Oui, si vous le faites, prenez 3 mois.
Hein. Ah oui, c'est ça. Oui.
Mais disparaissez et voilà.
Mais il faut prendre 3 mois.
Mais comment
on s'en rend compte après quand on vous voit.
Mais comment vous avez fait ? Parce que vous n'avez jamais disparu 3 mois.
Je fais ça justement pendant les congés d'hiver.
Ah.
Et comme ça, vous disparaissez.
Vous avez 3 mois de congés d'hiver.
Non. mais on voit pas les petites croûtes, vous voyez.
Ah, on voit moins.
Puis à cette époque, j'étais moins occupé que je ne le suis aujourd'hui, parce que je n'avais pas de voilà. Faites attention à vous, Mathieu. Vous savez quoi ? Oui. J'ai failli ne pas venir aujourd'hui.
Ah bon ? Mais pourquoi donc ?
Bah parce que comme nos personnages du jour, j'avais piscine.
À Paros ?
Non, à Paris. Vous savez, il y a des piscines
publiques. D'ailleurs, on vous voit souvent barboter dans les piscines, dans les piscines publiques.
Oui, pour attraper des champignons.
Mais finalement, vous êtes là.
Oui, évidemment, Mathieu, je suis. Et je sais bien que seul, vous n'y arriveriez pas. La preuve, qui annoncerait les personnages du jour si j'étais pas là, moi ?
Bah moi, par exemple.
Oui, ça se tient. Bon, bref, ils ont piscine. C'est le thème historiquement vôtre cet après-midi. À commencer par une icône du 7e art dont on commémore ce week-end les 40 ans de la disparition. Romy Schneider, qui avait piscine et surtout la piscine. Avec un certain Alain Delon dans un film qui a changé sa carrière à jamais, vous verrez. Puis lui aussi avait piscine, pas sur la Côte d'Azur comme la première, mais à Roubaix. Je vous raconte Albert Barre. L'architecte a construit là-bas la plus belle piscine de France, considérée à l'époque comme le seul vrai lieu de mélange social de la ville. Et quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un peintre qui lui aussi s'est jeté à l'eau.
Oui Stéphane, pour vous, bien sûr, ce n'est qu'un élément de décor quand des amis venus vous rendre visite vous demandent ce qu'est ce grand tableau accroché dans votre salon et que vous répondez avec la nonchalance de ceux qui ont tout « Oh, c'est un Hockney !» A Bigger Splash, c'est le nom de ce tableau culte de l'anglais David Hockney, le peintre vivant le plus coté au monde qui vit en Normandie, tout près de nous Stéphane. Je vous brosse son portrait à 99% en frais tout à l'heure.
Et avec nous comme chaque jour, ils vivent encore plus près de nous. Même si le soir, ils rentrent chez eux. Ce sont nos chroniqueurs. Celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et aujourd'hui, je vais évoquer pour vous Jeanne Villepreux-Power. C'était une petite brodeuse corrézienne née à Juillac en 1794. Elle savait à peine lire et écrire. Elle est venue à Paris à pied. Et on lui doit l'invention de la cage à la Power, dite aussi gabioline et à la Power. Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cet objet ? Ben en toute simplicité, c'est l'aquarium. Oui, Jeanne Villepreux-Power a inventé l'aquarium.
Très bien.
Avec nous également David Castello-Lopez, qui revient aux origines d'une invention qui fait notre bonheur.
Exactement, le bonheur de gens qui ont un petit peu d'argent. Hein. C'est la porcelaine.
Pourquoi il demande ? Alors Stéphane, si vous allez chez Ikea, vous trouverez de la vaisselle beaucoup moins chère que
la porcelaine. Non, mais la porcelaine, c'est pas une céramique bon marché. Hein. Il y a la faïence, il y a la terre cuite, mais
la porcelaine. vous avez bien de la porcelaine chez vous.
Oui, mais je suis pas dans les franges les plus populaires de la population.
Non, mais ce que je voudrais préciser, c'est qu'on trouve aujourd'hui chez des brocanteurs des services entiers en porcelaine qui coûtent moins cher que vos services de chez Ikea. Hein.
Faites les brocantes, les salles,
c'est vrai, ou les salles de vente. Moi, j'ai acheté tout ça. Non, mais c'est vrai.
Non mais enfin David, les salles de vente, ouais. Enfin c'est basique.
Qu'est-ce que vous faites le week-end, David,
hein, ouais, c'est vrai, au lieu d'aller à Drouot.
Mais allez à Drouot et à lever la main. Olivier Poul, c'est avec nous aussi, Stéphane.
Il remonte aux origines d'une recette d'un plat. Là, c'était...
C'est ce qu'il vous faut après la piscine, voyez-vous.
Tu gâches tout les efforts de la délongueur.
C'est tellement réconfortant, le chausson aux pommes.
Oh oui, un peu tiède.
C'était très à la mode dans mes jeunes années.
Ça revient. Ils se tirent la bourre, les boulangeries, pour le meilleur chausson aux pommes. L'autre jour, j'avais repéré un chausson aux pommes exceptionnel sur Instagram. Je cours en acheter pour ma femme qui adore les chaussons aux pommes. Il m'explique, il me regarde, j'avais l'impression d'être chez Louis Vuitton. Il dit non, il faut les commander, les chaussons aux pommes. Ils sont déjà tous partis, il m'a montré le bac qui était vide. Donc il faut commander ces chaussons aux pommes, tellement c'est devenu un bien précieux, Stéphane.
Non, mais nous, on a dû en avoir trop.
Bientôt, on les trouvera chez Drouot en vente aux enchères.
Un peu raciste. Et puis nous jouerons évidemment dans cette émission, nous adorons jouer avec l'histoire. Stéphane Bern face à Clémentine Portier-Keltenbach, ça sera Bern to be alive. Mais d'abord, partons à la rencontre de notre premier personnage du jeu.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Plus qu'une star, elle est devenue une icône.
Marie-Ange Nardi.
En plus encore, Stéphane, ça paraît fou, je sais. Pourtant, c'est au cinéma qu'elle a crevé l'écran. Et dans une piscine notamment, Stéphane Bern met ses petits bouchons d'oreilles et nous raconte Romy Schneider.
Jean-Paul, le dos collé aux dalles brûlantes d'une piscine couleur azur dans une villa de la côte du même nom. Marianne, en simple bikini noir et aux yeux tout aussi bleus, sort de l'eau et s'approche, le corps ruisselant, avant de s'allonger sur lui en l'embrassant langoureusement. L'ambiance semble détendue, insouciante, et le temps s'écoule lentement dans la chaleur de l'été. Pourtant, derrière les éclats de rire, les jeux et les éclaboussures, un drame se noue autour de ce bassin, personnage à part entière d'un film bientôt culte.
Par où remonte-tu vers ça ? Attrapez-moi !
En plein été 1968, dans le sud de la France, Romy Schneider tourne La Piscine, un huis clos sensuel et pervers avec Alain Delon. L'actrice s'apprête à fêter ses 30 ans. Elle a déjà une solide carrière derrière elle et une histoire ancienne avec son partenaire dans le film. Alain et Romy se rencontrent 10 ans plus tôt, en 1958, sur un autre tournage, celui du film Christine. Les producteurs du long-métrage organisent une rencontre entre les deux acteurs à l'aéroport d'Orly. Une scène écrite à l'avance dans laquelle Alain attend gauchement Romy, un bouquet de fleurs à la main. Si Delon n'est pas encore connu, la jeune comédienne autrichienne est une immense star en Europe. Elle a déjà tourné 11 films dont le public retient surtout la trilogie des Sissi. Romy Schneider a grandi en Autriche, dans un pensionnat religieux aux allures de forteresse, où ses parents, très pris par leur carrière de comédien, ne viennent jamais la voir. En 1945, ils divorcent. Et Magda, la mère de Romy, épouse en seconde noce un homme qui met la main sur les cachets de sa belle-fille et tente d'abuser d'elle à plusieurs reprises. Lorsqu'elle rencontre Delon, Romy vient de refuser 1 million de marks pour un nouvel opus de Sissi dont elle souhaite à tout prix détacher son image. Elle souhaite aussi s'émanciper de cette famille qui l'étouffe et de cette mère qui veut tout diriger à sa place. À Orly, sur le tarmac de l'aéroport, Romy ne succombe pas au charme du jeune premier français. Un jeune type beaucoup trop beau, trop bien coiffé, en cravate impeccable, dans un costume trop à la mode, racontera-t-elle. Lui la juge très capricieuse et très ennuyeuse. Mais lors du tournage à Vienne, les choses changent et les deux acteurs tombent peu à peu amoureux. Dans le film, le personnage joué par Alain Delon déclare à sa partenaire comme un présage à leur relation. « Vous voyez, on s'aimera peut-être toute la vie. » Après le tournage, Romy Schneider quitte l'Allemagne et s'installe avec Delon à Paris. À ses côtés, elle s'encanaille, découvre les bars et les soirées arrosées. Et tant pis si ses compatriotes, qui la portaient au nu, la traitent aujourd'hui de traîtresse à la patrie, elle qui a osé quitter son pays. Mais alors que la carrière de Delon explose avec Plein Soleil en 1960, puis Rocco et ses frères de Visconti l'année suivante, la jeune Romy entame de son côté une période difficile. Les rôles sont inversés. Romy Schneider tourne sous la direction d'Orson Welles et d'Otto Preminger, mais on lui propose de moins en moins de rôles. Pour les journalistes, dont certains la surnomment encore Sissi, elle semble n'être plus que la compagne d'Alain Delon, la femme de, en quelque sorte. Malgré des fiançailles en grande pompe, les amants se séparent après 5 ans de relation. Les tournages à répétition, les comparaisons et la jalousie les ont éloignés. Delon écrit dans une longue lettre de rupture « Je te rends ta liberté ». en te laissant mon cœur. Romy retourne en Allemagne et épouse le metteur en scène Harry Mayen. Ils ont un fils, David, en 1966. Mais cette vie de femme au foyer à Berlin n'est pas la sienne. L'actrice, qui a peu à peu disparu du devant de la scène, craint de devoir mettre un terme à sa carrière au cinéma. Et puis, un jour, le téléphone sonne. C'est Alain Delon, qui depuis la France lui propose le rôle de Marianne, sa partenaire dans le scénario de La Piscine. Le film est porté par son réalisateur Jacques Deray et une équipe de producteurs qui pensent d'abord à des actrices comme Angie Dickinson ou Monica Vitti. Pour eux, le nom de Schneider est encore et toujours associé à la mièvrerie pastel de Sissi Impératrice. Mais Delon insiste et menace de claquer la porte d'un projet qui repose en grande partie sur sa notoriété. « Si ce n'est pas Romy, je ne fais pas le film », lâche la star. Alors Romy travaille dur, y compris physiquement, pour faire oublier ses joues rondes de poupée de conte de fées. Lorsque l'actrice débarque à Nice, Jacques Deray l'admet. « Dès la première minute, je suis conquis ». Sous le soleil de Ramatuel, autour de la piscine, personnage à part entière du film, on observe les corps bronzés et trempés de Delon et de Schneider qui se touchent et s'embrassent langoureusement, revivant à l'écran leur histoire d'amour achevée 5 ans plus tôt. Le film contient peu de dialogue, 8 pages en tout. C'est presque un film muet, mais la mise en scène est mûrement réfléchie. Le corps des acteurs remplace les mots et tout se passe dans les gestes, dans les regards. Romy Schneider, sculpturale dans son bikini noir et son maillot une pièce blanc, crève l'écran. La piscine bénéficie de la musique de Michel Legrand qui sait traduire toute la sensualité mêlée de tension du film. Maurice Ronet, l'un des plus grands acteurs de la décennie, campe le rôle du séducteur désinvolte et brillant Harry. C'est aussi l'un des premiers rôles de Jane Birkin au cinéma. Le thriller torride sort le 31 janvier 1969 dans les salles françaises et attire 3 millions de spectateurs. C'est un succès, aussi bien critique que commercial. Pour Romy Schneider, La Piscine est bien plus que cela. Le film s'apprête à totalement bouleverser sa carrière.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Ils ont piscine, c'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi avec une icône du cinéma, Romy Schneider, dont le succès de La Piscine, justement avec Alain Delon, vient interrompre une petite traversée du désert dans la carrière précoce de l'actrice autrichienne, mondialement connue avant ses 18 ans, grâce à son rôle de Sissi l'impératrice. Et vous nous disiez, Stéphane, que plus qu'un film, La Piscine s'apprête à totalement bouleverser la carrière de la comédienne de 30 ans désormais.
Pour être tout à fait précis, le film a des conséquences sur la vie de Romy Schneider avant même sa sortie. Alors que Jacques Deray est encore en train de monter son long métrage, le réalisateur reçoit la visite d'un de ses collègues au studio de Boulogne. Claude Sautet a entendu parler de l'actrice et tient absolument à voir quelques extraits de sa prestation en avant-première. Lui aussi est séduit. Il offre à Romy Schneider un rôle dans le film qu'il est en train de préparer, Les choses de la vie, avec Michel Piccoli. Romy s'est fait un prénom. Elle est parvenue à faire oublier celui de Sissi. La comédienne prouve qu'elle peut tout jouer. Avec Sautet, elle enchaîne les grands films Max et les Ferrailleurs, puis César et Rosalie.
Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves, hein ? Il est beau, c'est ça ? Moi aussi, je suis beau dans mon genre. Et puis la beauté, hein, c'est toi qui le dis.
Ça ne veut rien dire.
Nous sommes d'accord.
J'aime cet endroit.
Je peux t'acheter si tu veux avec tout. Le bar, la pharmacie, le petit fleuriste, toute la rue, si ça te plaît. Je fais pas des petits dessins dans les coins, moi. Je gagne de l'argent. De l'argent.
Très chic.
De toute façon, je saurai jamais la vérité, alors.
Mais César, la vérité, tu la sais, tu la vois. On est ensemble. Si je voulais être avec lui, j'y serais, je suis libre.
À chaque année, son film culte. Dans cette décennie 1970, Romy Schneider incarne la femme moderne, émancipée, et joue avec les plus grands, Jean-Louis Trintignant, Yves Montand ou Samy Frey. Surtout, l'actrice a retrouvé l'envie de faire ce métier. À Jacques Deray, elle écrit « Tu m'as confié un rôle merveilleux, j'espère en avoir tiré le mieux, même plus, puisque pendant ce travail avec toi, mon ambition, je l'ai retrouvée, ah oui ». En 1975, Romy surprend encore le public avec un rôle très difficile dans le drame de Robert Enrico, Le Vieux Fusil. L'année suivante, elle reçoit le César de la meilleure actrice pour son incroyable prestation dans L'importance est d'aimer. À la même période, l'interprète de Marianne se remarie avec son secrétaire particulier Daniel Biasini et accueille une petite fille, Sarah. Mais le bonheur ne dure pas et les coups durs s'enchaînent. Harry, son premier mari, se suicide. Romy doit ensuite faire face à de graves problèmes de santé. Le pire arrive dans les mois qui suivent lorsque son fils meurt dans un terrible accident. Moins d'un an après le décès de son enfant, Romy Schneider s'éteint à son tour. À seulement 43 ans, dans des circonstances troubles. Grâce à son exceptionnelle filmographie, l'actrice est devenue un mythe. Mais comme l'écrit Delon dans une lettre d'adieu à l'actrice, il rentre chez lui le soir, le mythe. Alors, il n'est que Romy. Sur les bords de la piscine, l'actrice est pour toujours les deux. Une femme extraordinaire et une légende du cinéma.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de la légende Romy Schneider, nous avons, Stéphane, le plaisir d'accueillir le journaliste et critique de cinéma Luc Lariba. Bonjour Luc.
Bonjour Mathieu, bonjour Stéphane.
Bonjour Luc Lariba. Vous venez de publier un livre éponyme consacré au film La Piscine, paru aux éditions
Hugging and Munging.
Pas facile à dire ça, Stéphane.
Hein. Hugging and Munging. Merci de venir
Maison
à mon
Cocorico.
Oui, Maison Cocorico, c'est plus simple, Stéphane.
Pourquoi avoir choisi ce film en particulier? C'est pour vous l'un des films les plus iconiques du cinéma français?
Sans nul doute, oui. Un film iconique de son temps, mais qui n'appartient pas à son temps. C'est-à-dire qui est vraiment universel et qui aurait pu être fait aux États-Unis, en Russie, en Argentine, en Australie. Et il est français, il est bien de chez nous et il passe à travers les années. Quoi. C'est un film qui ne se démode pas du tout. C'est peut-être aussi, comme le disait Jean-Claude Carrière, que les personnages sont souvent en maillot de bain et c'est quand même un costume un peu indémodable.
Ah oui, ça c'est sûr. Et vous expliquez en introduction qu'en découvrant La Piscine, vous êtes rendu compte que s'il ne devait rester finalement qu'un film dans leur carrière respective, en parlant d'Alain Delon et de Romy Schneider, ce serait celui-ci. En quoi c'est un film qui a une symbolique importante pour les deux acteurs?
Bah, comme l'a dit Stéphane Bern tout à l'heure, c'est vraiment un film important pour Romy, puisque est-ce qu'on parlerait de Romy Schneider aujourd'hui comme on en parle s'il n'y avait pas eu ce film? Si elle était restée Sissi, elle serait peut-être restée une vedette européenne de second plan, comme l'a été Martine Carole ou d'autres de cette grande époque des années 50. Là, c'est vraiment un film vraiment important, porteur pour elle, mais aussi pour Delon, pour Jacques Deray. Et c'est pour ça que je pense que c'est un film qui restera. Et puis, ils sont tous les deux magnifiques.
Ils n'étaient pas dégueux, on peut le dire.
Non, ils sont au sommet de leur beauté. Lui, il a 33 ans, il a l'âge du Christ. C'est l'âge le plus beau, c'est ce qu'il dit. Elle revient de tout et on sent que là, c'est une femme presque accomplie et qui va s'accomplir encore plus.
Mais j'ai raconté dans le récit qu'Alain Delon avait exigé que Romy Schneider soit sa partenaire dans le film. Pourquoi, selon lui, le rôle devait revenir à Romy et à personne d'autre, notamment aux grandes actrices qui avaient été pressenties? À votre avis, il lui fallait une actrice qui le connaissait très bien?
Il fallait un couple qui s'aime et qui se soit aimé. C'est ce que dit Jacques Deray. Et quand Alain Delon a dû lu le scénario, mais quand il a dû prendre connaissance de ces personnages-là, il est clair que quand on lit le scénario, comme j'ai pu avoir cette chance, on se dit, ouais, il faut vraiment un couple fort qui s'aime ou qui se soit aimé, qui s'aime vraiment à l'écran. Comme vous l'avez dit, il y a très peu de dialogue, tout passe par les regards. Et c'est vrai que Delon et Romy se comprenaient sans même se parler avant ce film-là. Donc pour ce film-là, ben, la magie opère encore plus.
Il fallait une actrice qui sache nager aussi.
Ouais, mais consternant, ça, Stéphane. Effectivement. Qu'est-ce qui reste de la Romy de Sissi l'impératrice dans La Piscine? Est-ce qu'il en reste quoi que ce soit d'ailleurs?
Je ne suis pas si sûr. Je pense qu'on a vraiment affaire là à une autre femme. Peut-être ce qui reste, et c'est ce qui se traduit par les personnages, et surtout au cours du tournage, c'est l'insouciance. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une insouciance sur le tournage et qui se voit un peu à travers ces deux personnages de Delon et Romy, de Jean-Paul et Marianne, où c'est un peu comme des enfants autour d'une piscine qui jouent un jeu dangereux sans le savoir. Donc s'il devait rester quelque chose de la jeune fille de 19 ans, ça serait peut-être l'insouciance, mais là c'est une insouciance mature.
Et dans quel état d'esprit elle se trouve, Romy Schneider, quand le tournage débute? Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas la favorite au départ, ou est-ce qu'elle est confiante, elle doute?
Bien sûr qu'elle sait qu'il y a eu d'autres personnes avant elle, puisque même les producteurs n'avaient pas envie d'elle. Ils ne voulaient pas tourner le film à Ramatuelle, ils voulaient tourner le film à Enghien, parce que c'était beaucoup plus proche de Paris. Finalement, c'est dans la maison que louait le producteur l'été qu'ils ont tourné le film, parce que ça arrangeait tout le monde. Donc elle sait qu'elle n'est pas la favorite, mais je pense que ce qu'elle amène, c'est une liberté totale, quoi. Elle n'a plus rien à perdre, elle n'a plus rien à prouver. C'est une autre actrice. On est en face d'une autre actrice qui...
C'est presque son premier film.
C'est le film, en tout cas, de la Renaissance. Donc, ce qu'elle a fait avant n'a plus rien à voir avec ce qu'elle va faire là et surtout ce qu'elle fera après.
Alors, on continue à parler de nos personnages qui ont piscine et de Romy Schneider en particulier avec notre invité Luc Lariba sur Europe 1. À tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Ils ont piscine, c'est le point commun de nos personnages cet après-midi dans Historiquement vôtre. Et on parle évidemment de Romy Schneider avec notre invité Stéphane, le journaliste Luc Lariba, pour qui la piscine n'a aucun secret. Alors Stéphane a raconté que la piscine contient peu de dialogue, 8 pages, vous avez dit Stéphane. On peut lire dans votre livre que Jacques Doré, le réalisateur, explique que la piscine est un film sur la peau, les contacts humains, les silences, les regards. On y sent la sensualité. C'était assez inédit, ça, dans le cinéma français de cette époque, cette sorte de huis clos sensuel et presque muet, finalement.
Il n'y a pas eu beaucoup de films déjà dans le cinéma français qui sont en huis clos comme ça. Il y en a un autre assez marquant des années après, c'est Garde à vue, encore avec Romy Schneider, Ventura et Serrault. Mais c'est vrai que là, Jacques Deray, quand il s'est emparé de ce projet, il avait envie d'asseoir son potentiel, parce qu'il avait un vraiment potentiel de cinéaste et d'auteur. Parce qu'à l'époque, il y avait cette grande guéguerre entre les metteurs, les faiseurs, réalisateurs, ceux qui des braves techniciens, et puis les auteurs comme Truffaut, comme Godard. Et c'est vrai que par ce film-là, il a réussi à mêler et son savoir-faire technique et surtout le côté auteur. Et ça, c'est très important parce que le fait qu'il ait fait 8 pages, il avait tourné un film avant avec Audiard, qui avait bourré le film de dialogue. Et là, il voulait, au contraire, laisser parler les regards, l'image, la nature aussi. La nature a un rôle très important, puisque c'est elle qui permet de voir l'évolution dans le temps de l'histoire. Donc c'est un vrai film très important pour Deray aussi, en ce sens, pour Jacques Deray.
Deray, il avait pour ce film un casting exceptionnel. Il avait un très beau décor, une bande originale de Michel Legrand. Il voulait vraiment que son film soit une œuvre d'art. Enfin, c'était vraiment,
Les plans, il y a certains plans, c'est comme des tableaux.
Oui, c'est,
c'est travaillé. C'est quelqu'un qui connaît, qui maîtrise la technique, qui n'a pas peur des acteurs non plus. Il a eu une longue carrière d'assistant. Il a été assistant sur des films où Gabin était en vedette, où Ventura était en vedette. Donc il sait quand même y faire avec les acteurs, avec la technique. Là, il a eu un scénario en béton, tous tournés dans le même lieu, tout le monde vivait à peu près sur le même site. Donc pour lui, c'était à la fois facile, mais fallait pas se planter, quoi. Il valait mieux réussir son coup, ce qu'il a parfaitement maîtrisé.
Romy Schneider et Alain Delon ont formé un couple pendant 5 ans, et on peut lire dans votre livre cette confidence de l'actrice « L'homme le plus important dans ma vie fut et reste Alain Delon ». C'était l'amour de sa vie, un pilier aussi dans sa carrière d'actrice.
C'est vrai que Delon a beaucoup compté dans sa vie parce qu'il l'a prise avec elle comme elle l'était. Il ne l'a pas kidnappée, comme les journalistes à l'époque l'ont dit, d'Allemagne. Pour là, on est en France. C'est elle qui l'a suivie parce qu'elle avait envie de liberté. Il lui a fait découvrir une époque, fin des années 50, début des années 60. Il lui a fait découvrir Visconti, il lui a fait découvrir la vie parisienne. Et c'est vrai qu'après, pour la piscine, eh ben, il est allé la chercher. Là, pour le coup, il est allé la chercher. Donc, c'est vrai qu'il a joué un rôle très important dans sa vie de femme et dans sa vie d'actrice.
Dans le film, le premier rôle, on a l'impression finalement que c'est ni Delon ni Romy Schneider, mais que c'est la piscine qui est le personnage à part entière. C'est vraiment ce que souhaitait Jacques Deray.
C'est la nature compte énormément. Il voulait qu'on voit. C'est pour ça que tourner le film à Enghien-les-Bains, je suis pas sûr que ça aurait donné le même résultat.
Ça aurait bien marché.
mais c'est vrai que là, on voit pas Saint-Tropez, mais on devine au loin la station balnéaire. La piscine est vraiment les premiers plans du film sont sur la piscine. Là, on le voit à travers elle marque l'évolution du temps, c'est-à-dire qu'à la fin il y a les feuilles mortes qui tombent sur l'eau, chacun a sa manière de se baigner, de rentrer dans la piscine. Quand Maurice René y rentre la première fois, il saute comme un fou, on sait comment il va finir. Donc c'est vrai que c'est le moteur, c'est le moteur du film.
On l'a compris, il y a eu un avant et un après la piscine pour Romy Schneider. Elle a pu ensuite jouer des rôles parfois complexes avec des metteurs en scène très différents. Qu'est-ce qui, selon vous, fait d'elle l'une des plus grandes actrices de son temps ?
Parce que c'était une femme libre complètement et qui n'avait peur de rien, mais surtout qui savait s'affranchir du personnage et lui donner ce qu'elle avait vécu. C'est-à-dire que peut-être à la différence de certaines comédiennes ou actrices aujourd'hui, elle a mis toute sa vie intérieure dans ses personnages, mais en sachant aussi la masquer, c'est-à-dire qu'elle a, elle a essayé de conserver sa vie privée à part. Après, ce sont les journalistes qui s'en sont emparés. Mais c'était, je pense, avant tout une femme libre, drôle aussi, ce qu'on n'a pas toujours vu, mais vivante. Je pense que c'est ça qui la caractérise.
La Cinémathèque française lui rend hommage en ce moment pour les 40 ans de sa disparition. La commissaire de l'exposition Clémentine Déroudy évoque la tragédie d'une vie trop courte qui devait obligatoirement cacher d'autres drames, d'autres douleurs que ses films permettaient d'exorciser. Le cinéma l'aidait à affronter sa vie, les drames qu'elle a vécu, Romy Schneider ?
Je pense que comme beaucoup de comédiens, de comédiennes, le cinéma joué, c'est un exorcisme. Hein. Ça permet de donner plus que ce qu'on est au fond de soi. Hein. On le voit, mais ça a toujours été avec des gens comme Burt Lancaster, comme Delon, comme Ventura, ou même aujourd'hui Olivier Marchal. Il exorcise ce qu'il a vécu par le cinéma. Donc c'est ça, ça permet d'aller au-delà de ce qu'on est.
Merci beaucoup, Luc Lariba, d'être venu avec nous sur ce film mythique, La Piscine, et son héroïne aux yeux piscine. Je rappelle l'ouvrage que vous consacrez au film, La Piscine, paru aux éditions Hagin et Menin. Et pour
il y a du mieux quand même sur la prononciation.
J'ai progressé pendant l'émission. Et pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur l'actrice, eh bien la Cinémathèque française lui dédie une exposition à découvrir jusqu'au 31 juillet prochain.
Merci à vous.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
À suivre, voilà un nom sur la prononciation duquel Stéphane aurait certainement buté. Jane Villeprepower ou Jeanne Villeprepower. Clémentine Portier-Kaltenbach tranchera le débat. Une chose est sûre, c'est l'inventrice de l'aquarium. Chapeau, madame.
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires en étant toujours comme un poisson dans l'eau. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, elle était aussi, elle, comme un poisson dans l'eau. Jeanne Villeprepower, l'inventrice de l'aquarium.
Eh oui, oyez, oyez, brave Jean, la vie aventureuse, cette petite corrézienne, née en 1794 à Juillac, un petit village de Corrèze. Son père est une sorte de cordonnier garde-champêtre et Jeanne Villepreux, elle veut voir du pays. Alors à 18 ans, elle quitte son village et vient à pied à Paris. Moi, ça me fascine, cette histoire. Comment on pouvait envisager, je me souviens de Larrey qui était dans les Pyrénées, il va jusqu'à Montpellier à pied, Ravaillac qui vient jusqu'à Paris à pied d'Angoulême, et bien Jeanne Villepreux, elle vient à pied à Paris. Et comme elle brode à merveille, sa mère lui ayant appris, elle se fait embaucher chez Gagelin, un mercier de luxe de la rue de Richelieu. Et c'est un endroit qui est fréquenté par une clientèle très chic. Et notamment, elle travaille, ça va vous parler, ça Stéphane, sur les broderies de la robe de mariage de Marie-Caroline de Bourbon-Sicile avec le duc de Berry, le fils du futur Charles X. C'est la duchesse d'Angoulême, la duchesse de Berry, pardon, la maman de l'enfant du miracle. C'est une personnalité haute en couleur. En tout cas, la petite Jeanne Villepreux a travaillé sur les broderies de sa robe. Et évidemment, comme elle est à Paris et dans ce milieu du luxe, eh ben elle ferait avec un environnement humain que jamais elle n'aurait côtoyé en Corrèze. Et c'est ce qui l'amène à faire la connaissance d'un certain James Power, un riche négociant d'origine irlandaise qui vit en Sicile et qui s'éprend d'elle. Et dont James et Jeanne se marient en 1818 à Messine. Et alors évidemment, comme Jeanne n'est plus dans la nécessité de travailler pour vivre, eh ben, elle se met à travailler pour s'instruire. Elle apprend l'anglais, l'italien et surtout, elle fait d'interminables promenades. Et comme elle est très observatrice, elle se met en tête de répertorier tout ce qu'elle voit autour d'elle et de réaliser son petit guide perso, un guide historique et touristique sur la Sicile. Alors elle commence à nomenclaturer les villages, les monuments, les curiosités. Puis elle s'intéresse aussi à la faune et la flore. Elle répertorie quand même, écoutez, c'est amusant cette statistique parce qu'il faut imaginer le boulot et les heures que ça a dû être. 267 espèces d'oiseaux, 627 plantes. Elle réalise la nomenclature de tous les fossiles qu'elle ramasse sur les pentes de l'Etna. Il y en a 610 fossiles et 142 minéraux. Mais bientôt, ce sont les espèces marines qui l'enthousiasment. Elle dénombre plus de 600 mollusques, 132 poissons, 116 crustacés. Alors,
elle les pêche.
Alors elle les pêche et puis elle crée son propre cabinet de curiosité avec toutes les trouvailles récoltées lors de ses explorations. Et si vous voulez, ce qui est très important, c'est qu'on est à une période charnière. Jusqu'alors, c'était dans leur labo que les zoologistes observaient et répertoriaient les espèces qu'on leur apportait du monde entier. Mais du coup, ils travaillaient sur des créatures desséchées ou des espèces conservées dans de l'alcool. L'alcool, d'ailleurs, il y a des cabinets de curiosité qu'on qualifie qu'on dit des animaux desséchés parce qu'on n'a pas on peut pas observer les animaux dans leur environnement. Et c'est justement en 1820 que l'on commence à comprendre qu'il faut aller observer toutes ces créatures directement dans leur environnement. Et donc, dans ce domaine spécifique de la biologie marine, Jeanne Vilpre-Power, qui signera ses ouvrages par la suite du nom de Jeannette Power, est vraiment une pionnière, comme d'autres d'ailleurs, comme Audouin Quatrefages, qui sont les grands noms de la biologie marine. Alors, reste à savoir comment faire pour l'observer. Les naturalistes observent des vases, ils ont des vases d'eau, ils fichent leurs poissons là-dedans, mais enfin les poissons ne survivent pas, ça fonctionne pas. Et c'est là que Jeannette Power, en 1832, invente son propre dispositif, la cage à la Power, que l'Académie de Catane en Sicile va baptiser, elle, la gabiolina à la Power. Parce que j'ai appris à l'occasion que gabiole, une gabiole en vieux français, c'est une cage. Je l'ignorais et voilà, nous le savons tous les trois. Alors, elle invente trois sortes de machines comme ça, l'un en verre, l'une avec qu'elle met dans l'eau avec des ancres, et puis une très grande cage qui fait 4 mètres sur 2, qu'elle renforce aux ancres par des pièces de métal et qui est maintenue sous l'eau de mer par des ancres. J'introduisais dans l'intérieur de cette cage de l'algue, des plantes marines, de petites parties de roches, de petits cailloux, des tritons et d'autres mollusques conchilifères pour que ces organismes marins ne soient pas dépaysés et puissent se nourrir. Et alors le grand truc de Jeannette Power, c'est qu'elle va se passionner pour un mollusque, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, qu'on appelle un argonaute. Et à l'époque, le grand débat scientifique, c'est un des coquillages qu'on ramasse par centaines sur les plages. La grande question, c'est de savoir si l'argonaute sécrète sa propre coquille ou s'il la parasite comme le fait le Bernard l'ermite. Il y a une polémique autour de ce sujet qui va aller jusqu'à l'Académie des sciences. Et oui, vous rendez compte. Et la Zoological Society de Londres. Ça va durer des années. Et c'est Jeannette Power, la petite brodeuse de Juliac, qui en produisant des dizaines de ces mollusques, les argonautes, à différents stades d'évolution, remporte en 1839 cette controverse contre le grand scientifique français de Blainville. C'est donc une grande victoire de l'expérimentation et de l'observation in vivo par une autodidacte contre les rigidités de l'académisme confiné. À Paris, Jeannette Power, Jeanne Vilpre, dont le nom vous disait rien il y a encore 10 minutes, la petite brodeuse corrézienne, inventeuse de l'aquarium ou inventrice, a une rue à son nom, à votre avis, où se trouve-t-elle ?
Dans quel quartier ? À côté de l'Institut d'Océanographie. Il y en a
à côté de l'aquarium de la Porte Dorée. Vous n'étiez pas loin, c'est l'aquarium. Tout à fait ça. Voilà. Donc souvenez-vous à présent de quand vous verrez un bel aquarium de Jeannette Power et de la gabiolina de Power.
Je sens chez Stéphane un désintérêt profond pour tout ce qui est poisson.
Alors là,
j'adore
ça vous intéresse pas.
Les mollusques.
Vous aimez les aquariums,
J'ai toujours eu des aquariums étant petit.
L'aquarium a quelque chose de très profondément apaisant.
Oui, oui, c'est vrai. Dans tous les restaurants.
J'étais sûr qu'il irait là-dessus. Dans tous les restaurants chinois, il y a un aquarium, c'est vrai. Ben, ça participe à l'expérience, au plaisir du restaurant.
Et puis, ça permet de recycler la nourriture. Non, il n'est pas.
Bon. Arrêtons-nous là et passons rapidement au quiz, c'est ce que je vous propose.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
La 392e édition du quiz sera-t-elle la bonne pour Stéphane Bern?
J'en ai gagné plus d'une.
Oui. Oh là là là. 4 ou 5.
Bon, 2, 3.
Non, vous le savez très bien.
Stéphane, qui n'arrivant pas à enrayer la vicieuse spirale de la loose, s'essaye chaque jour à de nouvelles techniques.
Je vais vous dire non, mais ça va être oui. Et alors, je vous dis non.
Jouons, écoutez, essayez juste de répondre ce que vous voulez. Donnez-moi une réponse simple. Jouons à Bern to Bien. Première question, Stéphane, justement. Question simple, réponse très simple, si possible. En 1936, est-ce que le Coca-Cola est cachère ?
Il l'a toujours été. Je ne vois pas ce qui pourrait être de ce qui aurait de pas cachère dans le Coca-Cola.
Réfléchissez, puis dites-moi oui ou non. en 1936, le Coca-Cola est-il cachet ?
Ah, vous savez, il peut y avoir des bactéries pour la fermentation, et du point de vue de la cache-route, c'est très important. Par exemple, dans les potages lyophilisés, autrefois, il y avait de la farine de baleine. Or, la baleine, vous savez, il faut que ce soit un poisson sans écailles. C'est très, très subtil. Et il y a des marques qui ont dû faire des potages spécifiques qui soient acceptés par le
Bendine. Si vous posez la question, c'est que ce n'était pas forcément cachère.
Alors, est-ce que le Coca est cachère en 1936 ?
Moi, je pense que... Attendez. Et vous pensez qu'aux États-Unis, Coca-Cola pouvait se dispenser d'avoir la clientèle des juifs pratiquants et de ne pas avoir un Coca cachère. De toute façon, c'est une bénédiction. C'est quand même très simple de rendre un produit cachère.
Coca-Cola n'est pas une bénédiction.
Non, mais c'est pas une bénédiction. Mais vous mettez un rabbin qui bénit.
Heureusement que j'avais demandé une réponse.
Qui bénit du Coca et il devient cachère. Bon, écoutez, assumez.
Il est cachère en 32.
Vous avez.
C'était en 36.
En vous trompant de date alors qu'il avait lancé le jingle, vous avez gagné. En 36, oui, il est cachère en 32. Non, oui. Il n'est pas cachère. Pourquoi ? Parce qu'en 1935, le rabbin Tobias Geffen déclare le Coca-Cola cachère pour une raison principale. Le résidu de fonte de graisse de bœuf qu'on trouvait dans la boisson jusqu'alors est remplacé par de la glycérine végétale.
Ah, voilà.
Donc il est cachère.
Oui, mais vous avez dit 1932.
Mais vous avez dit 32.
Vous êtes trompé.
Il a dit 32. Il a dit 32.
Question numéro 2.
Pourtant, je vous ai beaucoup aidé. Hein.
Alors, Clémentine. 15 février 1921. Evan O'Neill Kane vit en Pennsylvanie. Artiste, il se produit sur différentes scènes musicales. En parallèle de cette passion, il écrit dans un journal local. Il en profita pour prendre un pseudo et faire plusieurs articles élogieux sur lui-même. C'est historiquement la première affaire d'escroquerie journalistique. Aux États-Unis, avoir une malhonnêteté comme ça journalistique s'appelle « to do a Kane ». Vrai ou faux ?
Ah oui, mais je le crois volontiers, c'est très marrant. Vous savez qu'il y a des gens qui créent des pages Facebook où, en effet, ils font leur propre éloge. Donc, que ce soit produit... Après tout, regardez, il y en a tous ces mots qui sont devenus des patronymes, qui sont devenus des verbes, des mots courants, pourquoi pas. Je ne connais pas cette histoire, mais elle me paraît tout à fait crédible, je réponds vous.
Vous avez perdu.
Evan O'Neill Kane était une personne tout à fait honorable. Il s'est quand même fait quelque chose à lui-même, sur le même principe. C'était une auto-opération de l'appendicite en anesthésie locale. Chirurgien de renom, il avait médiatisé cette opération et il avait, au moment de l'intervention, 60 ans. Il ne fallait pas que ça m'intrompe. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Le Dabawala existe depuis 1890 en Inde, comme vous le savez. C'est, vous pouvez nous rappeler ce que c'est, évidemment, le Dabawala. Mais c'est un système de livraison de nourriture, vous le savez. Étonnant.
Et oui.
Comme système, pourquoi ? Un livreur vient chercher chez vous ce que votre femme a préparé pour vous l'amener sur votre lieu de travail. Vrai ou faux ?
Non.
Mais il y a eu un superbe film là-dessus, Stéphane.
Ah bon ?
Sur une grande histoire d'amour.
Vivement les films indiens.
Une grande histoire d'amour, justement, à travers la livraison Bah alors, est-ce que c'est le Dabawala ?
Est-ce que c'est le Dabawala ou pas ? C'est ça la question. Oui, je sais l'histoire des mais est-ce que ça se trouve, le Dabawala, c'est simplement un poulet.
C'est un massage des pieds.
Et voilà, et on aura l'air.
Une crémation de.
Non, je dirais que c'est faux. Je ne le sens pas, votre Dabawala.
Vous avez encore perdu.
Oh, 100 points pour Stéphane aujourd'hui. Non, c'était vrai. En plus, elle vous l'a dit,
la
Clémentine.
La précédente question, j'avais bon.
Mais vous n'avez pas bon. Vous m'avez dit qu'en 32, le Coca était caché. Ce n'était pas le cas.
J'ai répondu à votre question.
Moi, je demande l'indulgence du jury pour la première question.
Nous verrons si le jury se réunira dans ma tête à la fin du quiz et on vous donnera notre verdict.
Mais vous savez, c'était vrai. Ça passe dans sa tête.
L'intérêt de cette livraison, le Dabawala, étonnante pour notre culture, c'est qu'un repas préparé à la maison garantit vraiment toutes les injonctions alimentaires dues à la caste et à la religion. Les Indiens ont, à cause de ça, beaucoup de mal avec la restauration rapide, notamment. Oui. Voilà. Pourquoi ça persiste aujourd'hui, le Dabawala ? Question numéro 4 pour vous, Clément. C'est en 3000 avant Jésus-Christ que les grandes civilisations développent un système d'écriture. Les Sumériens optent pour un système cunéiforme, littéralement en forme de coin. La première lettre hébraïque était à l'origine un dessin qui représentait quoi ? Un vase ? Une tête de vache ou un soleil ?
Je dirais bien une tête de vache qui aurait donné le Aleph, le A, la première lettre de l'alphabet.
Oui, moi aussi je dirais ça.
Vous avez gagné !
Magnifique réponse, Clémentine, avec la précision. Effectivement, la tête de vache, et quand vous la retournez, ça donne le A qu'on connaît aujourd'hui, première lettre de l'alphabet. On me signale le jury s'est réuni dans ma tête et a décidé d'accorder finalement le point à Stéphane.
Ah ouais, ça vous arrange
oui,
hein.
Oui,
mais enfin, j'ai quand même 2-1, excusez-moi.
Oui, mais non, pas du tout. Là, vous avez répondu une fois à toutes les autres questions. Donc là,
quoi,
au moins, c'est
non,
une égalité.
Vous n'aviez qu'un point, vous avez faux à la première question.
Nul besoin de tricher.
Ah non, mais vous trichez.
Ah, mais vous avez raison.
Ah bah oui.
Non, c'est que je suis gâteuse, c'est pas que je triche, c'est
nous
autre chose. C'est plus grave.
En question 5. Ressaisissez-vous, Claude Galien fut un brillant médecin grec de l'Antiquité qui pratiquait à Rome. Il disait exercer sa profession en se basant autant sur la raison que sur l'expérience. Il appelait ça ses deux jambes. On lui doit cette citation très célèbre, post coitum animal triste, soit une fois traduit, chaque animal après le coït est triste. Mais, ça vous ne le savez peut-être pas, cette citation a une suite. On ne connaît que la moitié de la phrase. Quelle est la suite justement? Trois propositions. Donc post coitum animal triste, sauf s'il a le cœur léger, sauf quand il n'a pas eu de plaisir, sauf la femme et le coq.
Un.
Deux.
Post-coitum animal triste. Donc, après le coït, l'animal est triste, sauf quand il n'a pas eu de plaisir. Il est content.
Parce qu'il a envie de recommencer.
D'accord, il remet ça.
Il remet ça.
Et vous m'avez dit s'il a le cœur léger.
Oui.
Ah oui.
Oui.
Il a le cœur. Non,
non,
c'est pas
trois,
la bonne.
C'est trois. C'est le coq, sauf le coq
sauf
et la
femme. Femme et le coq, qui eux, sont
très contents.
Victoire de Stéphane Bern. À l'époque, on était quand même... On était fort sur la misogynie, sauf la femme et le coq. Omne animal triste post coitum, praeter gallum mulirenque.
Eh ben, dis donc, quel vieux macho. Hein. Perdre là-dessus, franchement.
C'est le cas de le dire.
Ça me dégoûte.
Claude Galien.
Eh ben, on s'en souviendra de votre Claude Galien.
Europe 1, historiquement vôtre.
À suivre, je suis sûr, Stéphane, que vous êtes un grand amateur de piscine municipale.
Oui, j'adore.
Vous adorez? Vous allez souvent fréquenter?
Ça m'est arrivé, oui.
Mais, et vous mettez le petit maillot de bain?
Bah, c'est réglementaire.
Oui, c'est vrai,
vous savez.
C'est réglementaire.
Et puis, il faut un maillot de bain convenable.
Aussi. Bien moulant, bien sûr. Et nos personnages du jour, eux, ont piscine.
J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre.
Ah, Isabelle Adjani.
Oui, mais c'est pas d'elle dont on parle, Stéphane.
Oui, Mathieu, après Romy Schneider, qui a eu la piscine, surtout un film qui a changé sa carrière, je vous raconte Albert Barre, l'architecte de la plus belle piscine de France. C'est à Roubaix, mais maintenant c'est devenu un musée. Trop tard pour ses débuts.
h 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'un numéro particulièrement palpitant d'Historiquement vôtre, puisqu'on part à la rencontre de personnages qui aimaient la piscine. Un thème sur lequel se sont penchés trop peu d'agrégés, Stéphane.
Et on peut le déplorer, Mathieu. Oui, nos personnages du jour ne pouvaient pas. Ils avaient piscine. Après Romy Schneider qui avait piscine à Alain Delon, je vous raconte Albert Barre, l'architecte à qui l'on doit la piscine de Roubaix, la plus belle de France, devenue aujourd'hui un musée. Et de votre côté, Mathieu, vous nous ferez plonger dans la peinture d'un artiste que vous aimez énormément.
Oui, ce qui fait de moi, une fois de plus, un être éminemment original, puisque je vous parle aujourd'hui de David Hockney, le peintre contemporain le plus coté au monde, et dont je vais parfois admirer les toiles à la Tate Modern à Londres, ou si vraiment je veux en voir beaucoup, dans les appartements privés de l'abbaye de Tyrongardet.
Mais arrêtez avec ça. Je dis, j'adore David Hockney, mais j'ai pas
les
moyens.
Il habite en Normandie, pas très loin de chez vous, Stéphane.
Oui, mais,
vous pourriez
mais
demander
pas très loin de chez vous
ça.
Non plus.
Non, passer prendre
il
le
pourrait,
thé...
Il pourrait, j'allais dire, peindre votre piscine.
Non, mais je n'ai pas de piscine, moi, Stéphane.
Comment ça?
Bah oui, je suis désolé de vous décevoir, Stéphane, je n'ai pas de piscine.
Alors, n'oublions pas nos chroniqueurs, et notamment David Castel-Lopez. Vous nous racontez les origines de cette belle vaisselle.
De la porcelaine.
Oui.
De la porcelaine, d'où
c'est
ça vient, ça n'a pas toujours existé. Tout
mais
ça.
Non, bien sûr, il a fallu trouver... Voilà, les matériaux nécessaires,
tout à fait, on en parlera.
Ah oui, j'ai jamais réfléchi à la matière de la porcelaine. Mais la porcelaine, c'est pas une matière elle-même, non, c'est...
Non, on en parlera,
non,
on ne déflore pas.
Ne déflorons pas.
Il faut, mais c'est le kaolin.
Pas tout à fait. Kaolin.
Le kaolin.
On était pas loin. Le kaolin, ça doit être un animal qu'on trouve dans la savane.
J'ai dit ça, mais j'ai cherché.
J'aime bien quand vous prenez un ton très docte pour... Non, que vous lancez sur
au contraire,
mot.
Non, c'est vrai, c'était pas docte, c'était...
C'est vrai.
Je tentais un peu comme quand vous commencez à mettre un bout de doigt de pied dans la piscine, vous voyez, vous le tentez,
le
vous testez la température. Avec nous également Olivier Pouls pour nous parler de son chausson. Mais c'est un chausson particulier.
Sur une jolie assiette en porcelaine, on pourrait poser quelques chaussons pommes, légèrement tièdes, un tout petit peu croustillant à l'extérieur.
Cette belle invention, vous avez le nom, il y a une personne qui a inventé le chausson aux pommes.
Il y a une histoire en tout cas.
Une histoire. Est-elle vraie? Ça compte souvent avec vous. On n'est pas trop sûr, mais on voyage. Et puis, il y aura la lutte finale, les amis. C'est Olivier Pouls, justement, qui pour l'instant mène la danse. Il est en tête, mais tout est encore possible. Nous renverserons peut-être la vapeur avec David tout à l'heure en fin d'émission. Mais pour l'heure, découvrons notre deuxième personnage qui avait piscine. Stéphane Bern nous raconte Albert Barr.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Direction Stéphane, le nord de la France.
Quelle horreur.
Bon, je vous en prie Stéphane. Non, je vous en prie, il y a des très belles choses et notamment pendant longtemps, une piscine considérée comme la plus belle de France. C'est un architecte de la région qu'on la doit. Monsieur Patrimoine, comme il se fait appeler sur TikTok désormais, nous raconte l'architecte Albert Barr.
Dans cette immense piscine, sous une immense voûte en béton, résonnent les cris des enfants qui s'éclaboussent sous les jets d'eau que crache la gueule du lion, comme il la surnomme en réalité une tête de Neptune taillée dans la pierre. Il y a là les gosses des ouvriers textiles et ceux des riches familles industrielles. Bernard Arnault et Gérard Mullier, deux futurs capitaines d'industrie, y apprennent à nager. À l'eau, tous égaux, dit-on dans une ville, Roubaix, où les plus fortunés et les plus pauvres ne se côtoient jamais. La mixité est un idéal pour l'architecte du lieu Albert, Eugène Léon Barr. Albert est né le 23 avril 1863 à la Madeleine, près de Lille. 16 ans plus tard, il entre à l'école des Beaux-Arts de la cité nordiste et intègre sa section d'architecture où enseigne notamment Émile van der Berg qui construit des hôtels particuliers mais aussi les usines et cités ouvrières de la région. Une fois diplômé, le jeune Albert s'associe avec l'architecte Georges Boisdin et avec un autre de ses anciens professeurs, Louis Gilquin, à qui l'on doit notamment l'hôtel des Postes à Lille. En 1890, la création de l'avenue de l'Hippodrome sur la commune limitrophe de Lambersart offre un terrain de jeu grandeur nature aux bâtisseurs invités à se surpasser pour construire les villas les plus originales et faire ainsi connaître leur nom. Au concours de la plus belle maison, Albert Barr obtient le second prix en 1894. La villa Saint-Georges, sise au 218, est une incroyable bâtisse aux influences très éclectiques, gothiques et byzantines, flanquée d'une tour carrée servant de porche d'entrée. L'année suivante, Barr construit les bains dunkerquois, d'inspiration orientaliste comme le veut la mode en cette fin du XIXe siècle. Le bâtiment, de style néo-mauresque, offre une immense porte en forme de coquillage, des lions couchés de chaque côté des escaliers, le tout coiffé d'une coupole en bulbe et d'une cheminée en minaret. On y trouve bien sûr des bains-douches, mais aussi une école de natation à lavoir et même un salon de coiffure et une salle d'escrime. Il ne s'agit pas d'un coup d'essai pour Albert Barr, qui a déjà tracé en 1892 les plans des bains de Lille. L'architecte progressiste franc-maçon est convaincu par les idées sociales et hygiénistes qui se propagent en France. Barr tente même une carrière politique au sein du parti radical de centre-gauche, mais perd à deux reprises les élections municipales de Lambersart. Alors, avec ses petites lunettes et son éternel nœud papillon, Barr poursuit son œuvre. En 1927, il est choisi par Jean Lebas, le maire de Roubaix, pour construire de nouveaux bains et une piscine dans la ville. Lebas partage les idées de Barr. À Roubaix, la ville aux 1000 cheminées d'usines, il a déjà lancé des programmes de logements sociaux propres, neufs et suffisamment espacés pour laisser circuler l'air et la lumière. Avec ce nouveau projet, il vise deux buts. Développer la pratique de la natation avec un bassin de grande dimension et améliorer la situation sanitaire des habitants en luttant notamment contre la tuberculose qui fait des ravages dans une population toujours plus nombreuse, attirée par le développement industriel textile. Les ouvriers s'entassent encore dans des courées dotées d'un seul point d'eau et de deux WC à partager entre 40 familles. La piscine se veut donc un temple du sport et de l'hygiène, avec également une salle de musculation et des baignoires pour hommes et pour femmes à un prix d'entrée accessible à tous. Elle est pensée comme un centre de vie important au cœur de la cité, où l'on peut également se faire coiffer, soigner et où l'on peut profiter d'un repas ou d'un café dans le bar-restaurant de l'établissement. Les lettres qui forment les mots « bains municipaux » doivent s'étaler sur la façade, illuminée par un éclairage électrique pour rappeler à tous la présence de ce service public. Mais la construction est semée d'embûches. Les travaux durent 5 ans et sont ralentis par la crise économique qui découle du krach boursier de 1929. Il faut tirer parti des terrains acquis par la ville, très pentus et pour certains déjà lotis. Le budget serré de 13 millions de francs, moins de 2 millions d'euros aujourd'hui, oblige Barr à utiliser des matériaux peu nobles, comme le béton et la brique. Mais pour la décoration, l'architecte ne recule devant rien. marbre, mosaïque, relevé d'or, vitraux. La piscine, finalement inaugurée en 1932, est décrite alors comme la plus belle de France. Un bijou qui s'inscrit dans le mouvement Art déco, né avec la Première Guerre, et qui plébiscite angles arrondis et richesse des ornementations avec un intérêt particulier pour les dessins géométriques. Pour les bains, Albert Barre a une nouvelle fois pioché dans des inspirations variées, à la fois gréco-romaines, médiévales pour les gargouilles des gouttières et l'organisation spatiale des abbayes cisterciennes, tandis que des motifs triangulaires rappellent les principes maçonniques. Le bassin de la piscine est abrité sous une immense nef aux allures de basilic. La lumière qui passe à travers les vitraux en éventail de chaque côté de la voûte de béton projette des gouttes de soleil sur la surface de l'eau. Les nageurs bénéficient d'un bassin olympique, encore rare à l'époque, et d'un plongeoir métallique à deux niveaux. Les hommes peuvent se baigner tous les jours. Les femmes disposent d'un créneau de 4 heures seulement, les lundis et vendredis. Pour se laver, il faut réserver une salle de bain dotée d'une baignoire remplie d'eau chaude pour un créneau de 30 minutes. Les Roubaisiens peuvent aussi profiter d'un jardin solarium avant de se rendre à la cafétéria pour déguster sous les superbes verrières un buffet froid, des bières locales et des bonbons pour les enfants. Albert Barre meurt en février 1951. Dans la décennie qui suit, la fréquentation de sa piscine baisse irrémédiablement en même temps que les logements s'équipent de sanitaires. Elle ferme en 1985 avant de rouvrir en 2001, transformée en musée, restant le formidable témoin de l'histoire de la ville, d'une région, mais aussi d'une époque.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour en savoir plus sur Albert Barre, nous sommes Stéphane avec un conservateur qui le connaît bien. Bonjour Bruno Godichon.
Bonjour.
Bonjour Bruno Godichon, le temps de me sécher et on parle avec vous dans un...
Historiquement vôtre et nos personnages qui ont piscine continuent. On parle d'Albert Barre avec notre invité Stéphane Bruno Godichon.
Bruno Godichon, vous êtes le conservateur du musée La Piscine de Roubaix depuis 1990. Vous y avez nagé dans cette piscine avant qu'elle ne devienne un musée?
Et non, parce que je suis arrivé dans le Nord en 90 et qu'elle avait fermé un peu plus de 4 ans auparavant. Donc non, je n'y ai pas nagé.
Qu'est-ce qui vous a, vous, séduit dans ce lieu si singulier?
Alors, le lieu avait un côté magique, c'est presque un décor de cinéma, cette grande piscine abandonnée dans laquelle finalement la présence des baigneurs paraissait presque proche. Et puis, à ce décor assez exceptionnel, c'était ajouté, ce qui était peut-être encore plus important, l'évidence d'un attachement des habitants de Roubaix à cette piscine. La première fois que je l'ai visitée en novembre 89, les anciens cabiniers et cabinières de la piscine avaient su qu'il allait avoir un peu une porte ouverte ou entrouverte, et ils s'étaient tous donné rendez-vous sur place avec leurs anecdotes, leurs émotions. Et dans cette ville où la municipalité souhaitait faire un musée, mais qui n'est pas une ville de public traditionnel des musées, ce lieu devenait un terrain de possibilités. Très, très fort.
Dans l'imaginaire d'Albert Barre, et dans les faits, d'ailleurs, la piscine était accessible à tous, quelle que soit sa classe sociale. Les plus fortunés et les plus pauvres se côtoyaient dans cette piscine qui était, pour reprendre vos mots, le seul vrai lieu de mélange social à Roubaix. C'est vraiment un lieu où les différences sociales s'estompaient?
C'est moins un lieu où les différences sociales s'estompaient qu'un lieu où toutes les couches sociales ont des souvenirs. Voilà, il ne faut pas faire d'angélisme. Les enfants des patrons du textile qui venaient se baigner ou participer aux compétitions de water polo avaient un club, qui était le swimming club, on va dire le club chic, alors que vous aviez les cercles de natation ouvriers pour la population des courées. Mais malgré tout, c'était vraiment un lieu qui était présent dans toutes les mémoires et un lieu qui est particulièrement lié à l'adolescence, donc plutôt des souvenirs agréables avec les copains et les copines.
Voilà. Pour revenir à Albert Barre, il a été choisi par le maire de Roubaix de l'époque, Jean Lebas, pour la construction de cette piscine. Pourquoi lui? Pour son expérience? Pour ses idées politiques?
On n'a pas d'archives qui permettent de répondre vraiment à la question. Je pense que c'est un peu les deux choses. Parce qu'il avait déjà construit 2 piscines, ce qui était quand même à l'époque pas si fréquent. Et il l'a aussi choisi parce que quand Lebas est élu à la mairie de Roubaix, il décide de construire des équipements fort répondant à un problème fort des habitants de la ville. Il évite le saupoudrage, qu'a souvent été le cas des municipalités qui avaient des politiques sociales de distribution. Et le grand problème social auquel Le Bas s'attaque, parce qu'il le connaît bien, lui-même vient d'une courée, il est issu du monde ouvrier, c'est la tuberculose. Et donc... juste après la guerre, c'est la construction de l'école de plein air pour amener les enfants à la limite de la campagne, respirer un meilleur air que l'extérieur. Et puis ensuite, reprenant d'ailleurs un projet qui avait été abordé avant son élection, il décide de faire cette piscine en passant à Albert Barre la commande de faire la plus belle piscine de France. Et il sera si satisfait qu'au moment de l'inauguration... Il dira qu'il pense même que c'est la plus belle d'Europe. Voilà. Donc,
je l'ai dit, et vous le racontez d'ailleurs dans la présentation du musée, la piscine a été conçue comme un sanctuaire de l'hygiénisme en réponse aux difficiles conditions de vie des populations ouvrières. On a du mal à se rendre compte, un siècle plus tard, mais beaucoup de gens n'avaient pas de point d'eau dans les foyers. La piscine donc, ne servait pas uniquement à apprendre à nager et à pratiquer ce sport.
Le bâtiment est organisé donc autour d'un jardin central sur le plan d'une abbaye, en fait, d'une abbaye cistercienne. Et autour de ce jardin central, vous avez deux ailes qui étaient des ailes de salle de bain. Et quand la piscine ouvre en 1932, que la ville fait éditer un album de cartes postales sur l'équipement, la partie bain public, mais surtout la partie machinerie que le public ne voit pas, qui est en sous-sol, fait plus de cartes postales, plus d'images que la partie de la piscine elle-même. Ce qui montre bien que la ville, elle insistait sur cette dimension hygiénique et pour rassurer aussi la population. Alors, ce qui est vrai, c'est que même au début, dans la partie bain public, la sociologie des utilisateurs des baignoires n'était pas que de gens venant des courées, parce que beaucoup de maisons, on va dire de ce qu'on appelle d'employés, plus simple, n'avaient pas non plus de salle de bain. Donc voilà. Alors c'est après ensuite un service qui après la guerre a commencé à être de moins en moins utilisé, mais il y a encore des gens qui viennent à la piscine et qui sont des témoins non pas seulement de la baignade, mais également des salles de bain.
Si, comme une sorte de folie, certains élus souhaitaient retransformer votre musée en véritable piscine, ça vous plairait? Ça vous horrifierait?
Non, enfin, d'abord, je suis propriétaire de rien. Peut-être que la fierté, c'est d'avoir sauvé ce bâtiment. Oui. C'est-à-dire que je pense que sans un projet comme la piscine à l'époque, le bâtiment était menacé. Enfin, même la personne en charge des monuments historiques à la DRAC de Lille à l'époque, au début des années 90, avait dit à la ville qu'elle pouvait démolir la piscine, c'est un bâtiment qui n'avait aucun intérêt. Donc,
c'est quand même leur métier.
C'est le retour.
Ils avaient l'œil.
Il faut dire que toute cette période... assez proche de ce qu'on appelait la reconstruction après la Première Guerre mondiale, dans le Nord, elle est partout. Donc, on n'a peut-être pas la même vision. Puis c'est aujourd'hui, la personne dont je vous parle est en retraite depuis longtemps. Elle avait sans doute les goûts d'une époque. Mais en tout cas, voilà, on peut dire que le musée a sauvé le bâtiment de la piscine. Donc après, ce que ça deviendra, personne ne le sait.
Grâce au musée, elle a été sauvée et c'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup, Bruno Godichon, d'être venu avec nous sur l'architecte d'un lieu unique à Roubaix, où on peut plus certes piquer une tête dans l'eau, mais on peut désormais en savoir plus sur l'histoire de la ville de Roubaix et découvrir de nombreux artistes à travers vos expositions. Merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre.
Aujourd'hui, historiquement vôtre est donc consacré à ces personnages qui ont piscine. Après Romy Schneider et Albert Barre, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un peintre que vous admirez beaucoup, mais seulement au musée parce que, il est un peu trop cher pour vous.
Oui, j'aime ses couleurs, j'aime ses perspectives, j'aime moins ses prix. 40 millions pour un petit format, c'est au-dessus de mes moyens. Peut-être qu'un jour, Stéphane, vous m'offrirez un David Hockney, célèbre pour ses représentations de piscine californienne, celle-ci.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque des personnages qui ont piscine. Après Romy Schneider et Albert Barre, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un peintre dont le motif de la piscine revient souvent, David Hockney, le peintre vivant le plus cher au monde.
David Hockney, la plupart d'entre nous, on a vu ses tableaux au musée, à l'Orangerie, en janvier dernier, par exemple, ou en photo. Très rares sont ceux qui, comme Stéphane, peuvent rentrer chez eux, se mettre en pyjama, se brosser les dents, se coucher. Jeter un dernier coup d'œil à Bigger Splash, la toile culte d'Hockney qui trône en face du Queen Size Bed, avant de dire « Bonne nuit, David !» et d'éteindre la lumière en se disant que quand même, c'est sacrément chouette d'être milliardaire. Non, Stéphane, nous, David Hockney, on se contente d'en rêver. Selon le site Art Price, David Hockney est le cinquième artiste le plus cher au monde de l'histoire, classé entre Roy Lichtenstein et René Magritte. Le 15 novembre 2018, une de ses toiles a été adjugée 90,3 millions de dollars chez Christie's, soit le record pour un artiste vivant, juste devant Jeff Koons, ce qui n'est pas pour déplaire à Stéphane, qui a un avis assez tranché sur Jeff Koons.
C'est juste un gros connard.
Merci Stéphane pour cet éclairage. Alors, qu'est-ce que...
Mais arrêtez, c'est le détournement de son oui, et c'est pas normal. C'est...
Mais qui était le gros connard, le vrai?
Mais c'était peut-être Jeff Koons.
Non.
Est-ce que vous avez déjà vu le fameux tableau qui s'est vendu 90 millions? Vous imaginez 90 millions? Même Stéphane devrait travailler 4 ans et demi pour se le payer.
Arrêtez,
son titre, Portrait of an Artist, Pool with Two Figures. Alors, quand on est pas expert en peinture, on y voit un mec qui mate un autre mec en train de nager en slip kangourou dans une piscine, mais quand on a l'œil un peu formé, on y décèle tout le tourment de l'artiste. Dans les années 60, David tombe follement amoureux d'un de ses élèves à l'université de Los Angeles où il enseigne. Les premiers temps sont merveilleux, empreints de tendresse et de jeux érotiques.
Oh, c'est moi qui suis derrière.
Oui, alors, hélas, l'osmose ne dure pas. L'étudiant s'éloigne de David et c'est la rupture. Portrait of an Artist, Pool with Two Figures représente cette souffrance indicible, Stéphane, du renoncement à l'être aimé. Plus que deux gars en slip, on y voit en fait un homme au regard impassible en plein échec amoureux, regardant l'homme qu'il aime nager dans une piscine et lui échapper totalement. Oui, la peinture d'Hockney est souvent autobiographique. Lorsqu'on se fait plaquer, qu'est-ce qu'on fait, nous, qui ne sommes pas David Hockney?
Le Pornhub.
Oui, Stéphane, le Pornhub, c'est vrai, mais pas que. Mais entre autres, oui. David Hockney, lui, sublime sa douleur en peignant des chaises vides. Son œuvre en regorge, c'est dire le nombre de fois où il s'est fait larguer. Autre obsession, donc, les piscines. Qui ne sont évidemment pas de simples piscines en mode « Oh, c'est joli, je dessine une piscine », mais qui dénoncent, bien sûr, l'absurdité du confort moderne et du consumérisme écervelé. Mais ça, vous l'aviez déjà compris avec vos rutilants cerveaux toujours en alerte. Néanmoins, je vous connais aussi, vous voulez pouvoir briller dans les dîners. Et pour briller dans les dîners, vous aimeriez savoir où se classe David Hockney. Eh bien, je vais vous le dire, nulle part. Je suis un artiste qui n'entre dans aucune catégorie, tranche lui-même le génie de Bradford. Jamais, à aucun moment de son enfance, il ne va envisager autre chose dans la vie que l'art. Dès 16 ans, il intègre la Bradford School of Arts et c'est parti mon kiki, it's gone my kikai, comme on dit à Bradford. En 1959, après avoir effectué son service national en tant qu'objecteur de conscience dans les hôpitaux, il débarque au Royal College of Art de Londres et reçoit son diplôme avec une médaille d'or. En 62, il monte sa première exposition et là, normalement, dans mes portraits, il y a l'épisode émouvant dit du premier bide, celui où l'artiste doute de tout et manque d'arrêter pour s'inscrire à un BTS comptabilité. Pas avec David. Non, pour David, le succès est immédiat. Comme pour notre David à nous avec Je possède de la thune, David Hockney a 25 ans, il vit sa meilleure vie. À un détail près, à cette époque, l'homosexualité est encore passible de prison au Royaume-Uni. Or, Stéphane...
Je sais pas.
Bah, il est gay, Stéphane. Alors, en 64, quand il visite Los Angeles pour la première fois, c'est le coup de foudre. Il fait la connaissance d'Andy Warhol, qui lui suggère de se lancer et de creuser ce thème de la piscine, symbole d'un monde plat, figé, édulcoré, dans lequel la sensation de confort provoque presque un sentiment d'angoisse. La série des swimming pools, illustration de l'univers creux et artificiel californien, le catégorise comme artiste pionnier de l'hyper-réalisme. Alors, comme je sens que tout ça vous fait une belle jambe, je vous rassure, Stéphane, David peint aussi des hommes tout nus sous la douche, d'anciens amants, des amants courts, des amants souhaités, des animaux en bois, chaque sujet n'ayant pas forcément de lien, voilà, ne s'imbriquant pas forcément à l'autre. Oui, artistiquement parlant, Stéphane, une chose est sûre, c'est l'amour qui anime le pinceau de David, ou plutôt l'amour de l'amour qui le fait déménager à Londres, puis à Paris, puis à nouveau à Los Angeles, où il se découvre à seulement 40 ans, une surdité quasi totale. Oui, quand il prend enfin le problème à bras-le-corps, c'est trop tard pour se faire appareiller. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, Stéphane, prenez les devants. Il y a quand même eu dernièrement quelques signes avant-coureurs.
Je vous ferai un guacamole, c'est un plat sympa.
Du plat sympa?
Non, c'est un plat sympa.
Ah. Même sourd comme un pot, faites attention, c'est là. Même sourd comme un pot, Hockney continue de rayonner sur l'art contemporain. À chaque époque, il innove, il séduit. Artiste de son temps, en 2010, il expose à Paris à la Fondation Berger-Saint-Laurent des œuvres réalisées uniquement sur iPhone et iPad. Mais si si Hockney aime l'art, il n'en aime pas moins les teckels. Je vous rassure, Stéphane, comme vous, le plus célèbre peintre vivant voue un culte aux teckels. Depuis la disparition de ses premiers chiens, Budgie et Stanley, il ne cesse d'en adopter de nouveaux, toujours de la même race. Mais bien sûr, comme vous aussi, Stéphane, David Hockney est un homme engagé qui se bat pour changer le monde. Vous, en le délivrant du lobby éolien, lui, en se battant de toutes ses forces contre le lobby anti-tabac. Alors, non, ma langue n'a pas fourché, vous m'avez bien compris, Hockney milite pour le tabac. Comme quoi, on peut être visionnaire dans le domaine artistique et un chouïa moins dans le domaine sanitaire. En tout cas, aujourd'hui, Hockney fume ses clopes peinards chez lui, et chez lui, Stéphane, c'est un peu chez nous. Et oui, il vit désormais à Reménil, petit village normand à 30 km de Caen. C'est pour ainsi dire un voisin. Est-ce que vous pensez que si on se pointe avec une bonne bouteille de Calva et quelques petits cookies, on pourrait repartir avec une esquisse, un croquis peut-être ? Faudrait tenter. Allez voir en tout cas ses dernières œuvres plus colorées que jamais. Beaucoup de paysages normands, c'est magnifique, même si évidemment en radio ça ne s'explique pas. Comme disait le peintre maudit, chantre de l'hyperréalisme luxembourgeois Stephen Byrne, en mettant la touche finale à son célèbre autoportrait dit « Du man and dog in a tub ».
La peinture, c'est comme la merde, ça se sent. Mais ça ne s'explique pas.
Vous aussi, Stéphane, vous êtes un génie dans votre genre.
Merci, Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, c'est triste.
Et pour retrouver Stéphane, un garçon qui aime beaucoup se dépasser physiquement et enchaîner les longueurs à la piscine, mais qui préfère quand même s'enfiler des bons chaussons aux pommes, Olivier.
Ça m'a donné faim.
Quand je rentrais de la piscine, ma maman, elle m'avait préparé un petit chausson aux pommes.
Maintenant, vous les faites vous-même.
Bah oui, bien sûr. Je les achète chez des très bons boulangers.
D'où vient le chausson aux pommes ? Vous le saurez avec Olivier Poul dans un instant. Mais d'abord, David Castello-Lopez nous entraîne aux origines de la porcelaine.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de tout ce qui fait votre quotidien. Et votre quotidien, en tout cas le quotidien de Stéphane, qui nous expliquait que selon lui tout le monde devait en avoir chez soi, c'est la porcelaine, David Castello-Lopez.
Oui. Un jour, je suis allé à Limoges.
Oui, voilà. Mais c'était le tournoi.
Ça arrive.
Mais
ça arrive.
C'était pas là le tournoi de water polo.
Non, j'y suis retourné une fois.
Ah oui.
Voilà, faut pas me juger. Faut pas me juger.
C'est comme ça. Il y a pas une copine d'un certain âge là-bas, non ? C'est pas là ?
Non, non plus.
Vous avez vécu chez des retraités à Limoges ?
Non, ça c'était à Clermont-Ferrand.
Ah, pardon,
ah mais vous suivez pas
passionnant.
Mal.
C'est géographie castellopienne.
Voilà, enfin, en tout cas, je suis allé à Limoges, qui est pas, enfin, c'est rare, quoi. Que je veux dire, c'est pas une, c'est un peu, voilà, bizarre. Mais si vous connaissez Limoges, disons, c'est vrai que c'est pas la capitale du fun, quoi. Voilà, ça qu'on veut dire. Si j'y avais été avec mes amis, ils auraient probablement dit tout de suite « Viens, on s'en va de Limoges pour toujours ». Mais là, j'étais avec ma maman. Alors, on est resté et comme on avait quelques heures, on est allé au musée de la porcelaine. Et là, révélation, pendant 2 heures de ma vie, je me suis passionné pour la porcelaine. Et aujourd'hui, grâce à ce moment que j'ai passé à Limoges un jour de juillet 2013, je peux vous parler en connaissance de cause de l'histoire de la porcelaine. Alors déjà, il ne faut pas confondre la terre cuite, la faïence et la porcelaine.
Bon, loin de nous cette idée.
La terre cuite, c'est la méthode la plus rudimentaire. C'est de la terre argileuse qu'on broie, qu'on façonne, puis qu'on cuit à 700 degrés. C'est la seule technique de céramique employée en Occident jusqu'au début du Moyen-Âge. Mais au début du Moyen-Âge, justement, en Europe, on a inventé ce qu'on a appelé la faïence stannifère. Stannifère, c'est l'adjectif qui va avec éteint. Donc la faïence stannifère, c'est en gros la même chose que la terre cuite, sauf que c'est recouvert d'un glaçage en étain plus ou moins coloré. C'est ce qu'en Italie, si vous connaissez, on appelle la majolique. Oui. Exactement. Parce que ça venait de Majorque, où ça avait été apporté par les Arabes. La porcelaine dont je parle aujourd'hui, elle est née sans doute il y a plus de 2000 ans en Chine. Pourquoi en Chine et pas ailleurs ? Eh bien, entre autres, parce que c'est là que pour la première fois, on a trouvé l'ingrédient indispensable à la réalisation de la porcelaine, que Stéphane a appelé tout à l'heure le kaolin.
C'est le kaolin.
Mais qui s'appelle en réalité le kaolin et qui est une argile blanche, d'une blancheur incroyable. On mélange cette argile avec du quartz et du feldspath. On cuit ça à 1400 degrés et ça donne donc la porcelaine qui a la caractéristique, contrairement à la terre cuite et à la faïence, d'être là, la porcelaine, elle est quoi ? Translucide.
Elle est translucide
alors que la faïence, vous la mettez contre la lumière, il se passe rien. La porcelaine est,
c'est comme ça qu'on peut vérifier d'ailleurs que le service est en véritable porcelaine.
Tout à fait.
Alors, vous le faites souvent quand vous arrivez chez des amis d'ailleurs.
Ouais.
Bien vérifier qu'on se fout.
Alors
pas
maintenant, il y a des céramiques un peu
vous
techniques.
Vous retournez l'assiette déjà, premier prétexte.
Première chose, il faut le faire discrètement parce que je crois que c'est un peu mal élevé.
C'est mal élevé.
Surtout, on ne fait pas quand elle est pleine.
Et pas quand elle est pleine en plus.
Oui, mais vous, je sais que comme les restaurateurs, vous faites le service à l'assiette. Mais dans les maisons, on fait le service au plat.
Et oui. Voilà. Alors maintenant, il y a les assiettes Arcopal qui coûtent 3 euros et qui sont dans une autre matière qui est également translucide. Mais là, on voit quand même qu'il y a une petite différence. Mais en tout cas, avant que l'Arcopal existe, c'était la façon principale de reconnaître la porcelaine par rapport à la faïence. La première personne qui a ramené de la porcelaine de Chine en Europe...
Marco Polo.
Comme souvent, c'est Marco Polo. Dès qu'il y a un truc qui a été ramené de Chine, oui, c'est Marco Polo.
Et c'est le seul qu'on connaît qui est allé...
C'est vrai. Et il a aussi donné son nom à la porcelaine, Porcelana. Porcelaine, c'est un dérivé de porcellus, qui veut dire porc en latin, et qui a donné en français pourceau. Et oui, pourceau, c'est un synonyme de cochon. Oui. Ça aussi, ce nom porc désignait un type de coquillage. Et pourquoi ? C'est pour une raison un petit peu gênante à dire à la radio, mais c'est parce qu'on considérait que ces coquillages ressemblaient un petit peu à des vulves de truie. Donc, on appelait ça des porcelanas, ces coquillages. Mais comme ces coquillages, par ailleurs, ils étaient faits d'une matière blanche et jolie qui ressemblait un petit peu à la matière que Marco Polo avait ramenée de Chine, eh bien, on s'en est servi pour désigner cette matière également. Et c'est comme ça que la porcelaine s'est appelée la porcelaine. Mais pendant des années, les Européens, ils n'ont pas réussi à percer le secret de la porcelaine chinoise. La seule façon qu'ils avaient, c'était d'en importer de Chine. Et puis, à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe, il s'est passé deux choses. Un, il y a un prêtre jésuite français qui s'appelait le père d'Entrecolle, qui a débarqué en Chine et qui a découvert que l'ingrédient phare de la porcelaine, c'était le kaolin. Et il a aussi étudié comment la porcelaine était fabriquée en Chine, avec notamment une division du travail de malade jusqu'à 72 personnes différentes pour faire un bol. Et c'est la première chose. Et deuxièmement, donc il a ramené tout ce savoir en France. Et deuxièmement, en Saxe, qui est une région allemande, en 1709, on a découvert un gisement de kaolin. Et donc, progressivement, en Europe, au XVIIIe siècle, on a commencé à fabriquer de la porcelaine. D'abord de la porcelaine de Saxe, puis
Meissen.
Meissen. Oui, tout à fait. Quelques dizaines d'années plus tard...
C'est encore une marque, Stéphane ?
Non, c'est une...
C'est un lieu. Et quelques dizaines d'années plus tard, on a découvert un autre gisement de kaolin à Saint-Yrieix, à 40 km au sud de Limoges, d'où la porcelaine de Limoges, voilà. Qui est devenue une des deux capitales françaises de la porcelaine, l'autre étant... La porcelaine de Sèvres, exactement. Sèvres,
mais avec la manufacture royale.
Exactement, qui était juste à côté de Versailles.
Mais c'est toujours lié au fait qu'il y a ce matériau sur place
Au départ, il n'y avait qu'une seule manufacture qui était Sèvres et on amenait le kaolin de Limoges à Sèvres, mais après, il y a eu une deuxième manufacture qui s'est installée à Limoges. Aujourd'hui, les objets en porcelaine, ça reste parmi les objets d'art qui se vendent le plus cher du monde. Regardez par exemple ce mini bol chinois du 15e siècle. Pour les auditeurs qui ne peuvent pas voir la photo, c'est un bol qui doit faire 10 cm de diamètre avec des petites poules dessinées dessus. À votre avis, combien est-ce qu'il a été vendu à Sotheby's en 2015?
1 million d'euros.
Oh bah plus que ça.
Très, 8 très millions.
12 millions.
34 millions d'euros. Ouais. 34
Stéphane,
millions d'euros.
Vous faites vraiment des folies.
Non.
C'est trop, mais c'est beau.
C'est-à-dire que
même.
Moi, perso, je trouve ça un peu cher pour un bol.
Tout ça pour manger des Rice Krispies le matin. Quoi.
En plus, pas beaucoup, parce qu'il est petit.
Alors, je vous explique. Ça, c'est pas fait pour être utilisé, voyez-vous.
Oui, c'est fait pour être gardé. Mais le monsieur qui l'a acheté, il a été pris en photo immédiatement après, en train de se siroter un petit thé dans une tasse à 36 millions d'euros. Pour la photo, ensuite, sans doute qu'il l'a rangé. En tout cas, si vous allez à Limoges un jour, allez au musée de la porcelaine, à lui seul, il rattrape l'austérité de la ville.
Ben merci David. Voilà. Et puis c'est vrai que cette pauvre ville de Limoges qui a donné son nom se faire limoger.
Oui,
c'est vrai.
Parce qu'on envoyait les gens.
On envoyait les gens à Limoges.
Enfin, c'était un général qui s'est fait envoyer à Limoges. Ça,
Encore une triste histoire.
Alors que c'est une ville qui a plein de charme. D'ailleurs. Merci David, on retrouve les origines.
Les gens qui nous suivent sur europe1.fr pourront voir votre regard, votre sourire faux cube en réponse à cette phrase, Stéphane. C'est pas joli, joli.
On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio. Et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Et maintenant, d'où vient le chausson aux pommes ? Voilà une question
de la boulangerie.
Peut-être jamais posée. Mais au-delà de la boulangerie, qui l'a inventé ? Olivier Pouls, vous avez une réponse pour moi.
Alors c'est vrai que David a parlé tout à l'heure d'une ville française, Limoges, son grand intérêt majeur, si ce n'est pour sa fabrique de porcelaine. Moi, je vais vous parler dans un instant d'une autre ville française, encore moins connue, encore plus petite, peut-être encore moins intéressante, si ça se trouve.
Mais qui est la capitale
du chausson. Exactement, qui a vu naître le chausson aux pommes et qui en est resté un peu la capitale, puisqu'il y a maintenant là-bas une confrérie, la confrérie des amateurs de chaussons aux pommes, et qui se réunit tous les ans, figurez-vous, tous les ans, au mois de septembre, pour fêter les chaussons aux pommes. Alors, vous voyez les joyeux représentants de la confrérie défiler dans les rues. On se gave de chaussons aux pommes pendant tout un week-end. C'est quand même un programme assez sympa. Car c'est effectivement dans cette petite ville de la Sarthe, qui est baptisée Saint-Calais, que serait né le chausson aux pommes. Et on situe cette naissance au XVIIe siècle. Alors il faut savoir que dès la fin des années 1580, il y a une épidémie terrible de peste qui ravage toute la France, évidemment les habitants aussi de Saint-Calais. Et en 1630, quand l'épidémie commence à refluer, il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont décédés, mais il y en a qui sont restés, et bien pour fêter en quelque sorte, si on peut dire, pour célébrer la fin de cette épidémie, la châtelaine de la ville organise une fête. Elle fait confectionner un grand, alors on n'appelle pas ça à l'époque un chausson aux pommes, on appelle ça un pâté aux pommes, un grand pâté aux pommes qui sera distribué à tous les habitants survivants de cette ville de Saint-Calais. Et va naître cette tradition qui se poursuit donc toujours, cette fête du chausson aux pommes. Et c'est là qu'on estime qu'est née finalement cette préparation, même si elle a bougé, parce que ce fameux pâté aux pommes à l'époque n'était pas fait avec de la pâte feuilletée comme on le fait maintenant dans les boulangeries. La pâte feuilletée, elle est arrivée plus tard, elle est arrivée au XVIIe, voire au XVIIIe siècle chez nous. Mais évidemment, c'était déjà le concept d'enfermer dans de la pâte une préparation à base de pommes cuites. Et c'est ça aujourd'hui qui est la base du chausson aux pommes. Au XIXe siècle, on trouve en Moselle ce qu'on appelle le conucé, qui existe toujours d'ailleurs. Alors c'est une pâte à tarte qui est fourrée de pommes et qui est repliée sur elle-même aussi, d'une taille assez grande. Et aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, mon cher Mathieu, dans les boulangeries, le chausson aux pommes n'a pas disparu. Hein. Il reste même très tendance et il y a même des concours qui sont organisés du meilleur chausson aux pommes. Alors, de Paris, et d'ailleurs, je ne sais pas, vous avez peut-être une adresse, quelle est l'adresse dont vous parliez tout à l'heure, celui où vous avez fait la queue pendant deux heures pour qu'on vous dise qu'il fallait le commander.
Je tiens à préciser que je n'ai pas eu de chaussons aux pommes. Je n'ai pas réussi à me procurer ces chaussons aux pommes. S'ils nous écoutent, je ne connais pas le nom de la boulangerie, c'est dans le 10e, à côté du canal Saint-Martin, rue Yves Toudic, peut-être.
Peut-être le boulangerie se reconnaîtra-t-il.
Peut-être. En tout cas, il faut commander les chaussons aux pommes maintenant. Voilà où on en est.
Voilà. Alors, si vous voulez fabriquer le chausson aux pommes, vous pouvez le faire quand même, c'est pas très, très difficile. Mais évidemment, tout l'enjeu, c'est d'avoir une pâte feuilletée de qualité. Donc, ce que je vous conseille, parce que c'est difficile à faire la pâte feuilletée, c'est d'aller voir un bon pâtissier à Paris et de lui commander tout simplement de la pâte feuilletée.
Qui va aller voir le pâtissier, tu prends le chausson aux pommes direct.
C'est moins cher.
Ben c'est beaucoup moins cher, évidemment, parce que les chaussons aux pommes individuelles, à mon avis, chez votre copain, ils doivent valoir un petit bras, parce que c'est un peu aussi la mode de vendre très cher aujourd'hui tout ce genre de produits. Vous achetez un petit morceau de pâte feuilletée que vous étalez bien. Alors, évidemment, une compote de pommes avec du beurre, hein. On fait fondre du beurre, on fait caraméliser doucement les pommes dedans, pas trop longtemps parce qu'il faut garder quand même du craquant, il faut garder une petite texture. Moi, je l'aromatise non pas avec du sucre, mais avec un peu de miel. Je trouve que ça donne un côté plus doux et plus agréable.
Ou de la vanille.
Ou un peu de vanille, évidemment, une petite gousse de vanille que vous grattez, que vous posez dedans. Vous farcissez le chausson, on le replie sur lui-même, on soude bien les bords. Toujours badigeonné avec un jaune d'œuf que vous avez battu et dans lequel vous avez mis quelques gouttes d'eau pour le rendre un tout petit peu plus liquide. Avec un pinceau, vous badigeonnez ça. Faites quelques stries pour éviter que la pâte ne craque au moment où elle va gonfler dans le four. Et puis on enfourne ça pendant une vingtaine de minutes dans un four à 180-190 degrés. On laisse tiédir parce que le chausson pomme, c'est vrai que c'est très bon quand c'est légèrement tiède.
Exactement.
Pas trop froid. Voilà, pour la recette et l'origine de ce chausson aux pommes. Et nous, peut-être qu'on ira à Saint-Calais en septembre fêter les traditionnels défilés de chaussons aux pommes.
C'est une très belle idée.
À ce moment-là.
Mais on n'a pas compris pourquoi à Saint-Calais, ils avaient des pommiers autour. Pourquoi oui, c'est parti
dans la Sarthe. Dans la Sarthe, il y a beaucoup de pommiers, bien sûr. Ah ben, c'est plus facilement dans la Sarthe ou en Normandie ou en Bretagne qu'on fait du chausson aux pommes que dans d'autres régions.
Canis, effectivement. Exactement. Merci beaucoup, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Et puisqu'on parle de chaussons, eh bien on va voir qui est vraiment une pointure en matière d'histoire. C'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, je sais, Mathieu, que vous aimez la mythologie. Parlons d'Œdipe, pas du complexe, hein, mais de la mère de ce brave garçon qui fut coupable, sans le savoir, de parricide et d'inceste. La mère d'Œdipe, Jocaste donc, a eu avec son fils une fille et un garçon, deux filles, deux garçons, ou trois filles, trois garçons.
Tant que ça, trois filles, trois garçons, vous me suggérez ?
À l'époque,
on comptait pas.
On comptait pas.
Il n'y a pas trop de contraception non plus. Hein.
Bah oui, le maximum.
On vous a alors déjà beaucoup aidé.
À vous, pensez le maximum.
Alors non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. À votre regard, je ne pense pas.
Non, mais
je dirais le minimum alors.
Une fille, un garçon.
Oui. Non, alors non. Non, je ne pense pas non plus. Non, je ne pense pas non plus.
Mais attendez.
Je lis sur votre visage. Rien. Je me trompe toujours. Je pour je l'hypothèse médiane.
C'est quoi?
Ah, oui, oh là
là. Mais j'irai. Vous êtes témoin. Ma tête ne montrait rien.
Si non, parce que quand c'est la bonne réponse, vous avez un petit frétillement.
Oui, oui. Et c'est votre cœur qui parle. Et c'est très
bien. Quand c'est la mauvaise réponse, comme un petit air de déception dans l'œil.
Oui, c'est vrai.
Je vais à poker face.
Non, au contraire.
Et oui, alors maintenant, question subsidiaire, donnez-moi les prénoms.
Qu'une idée, ça ne compte pas.
Ah bah, il y a quand même au moins une. Antigone.
Voilà.
Antigone.
Antigone, et Polynice aussi, Polynice, et Théocle, et Ismène. Alors, maintenant Olivier. 28 ans après sa mort, la moustache de Salvador Dali était toujours dressée à 10h10. Vrai ou faux?
Comment ça? Dans son cercueil?
Oui.
On est allé vérifier.
On est allé voir. On a exhumé le corps 28 ans après.
On a voulu faire un prélèvement d'ADN et on est allé voir le corps. Est-ce que vraiment la moustache était toujours à 10h10 ou est-ce qu'elle marquait 8h20?
10h10. C'est-à-dire qu'en en fait, en 28 ans, il mettait quelque chose dedans pour la J'imagine que si la question est posée, c'est que c'est forcément vrai. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt
non,
à cette question.
Ce qui est vrai, c'est... Ça serait l'objet de la prochaine question, mais oui... Il a été exhumé, en tout cas.
Oui, bien sûr, mais j'imagine que si il était exhumé, la moustache devait encore être en état. Oui, les cheveux, en plus, ça met très, très, très longtemps.
Regardez bien, Stéphane, j'ai l'impression qu'il vous fait des signes.
Ah, Stéphane, la moustache à 10h10. Hein.
OK.
Ouais, je dis oui.
C'est une gentillesse atavique.
Non, parce qu'une femme prétendait avoir eu une fille...
C'était faux.
Voilà, être la fille de...
Je crois que c'était faux, oui.
Et donc, c'était faux, bien sûr, c'est toujours faux, ce genre de histoire.
Dit-il pour se prépunir.
Sauf le fils de Boris Becker, qui est... vous souvenez de cette histoire?
Le fils de Boris Becker.
Donc oui, effectivement, la moustache, lorsque le médecin légiste a exhumé, eh ben, il a vu que le corps de l'artiste avait été embaumé, que la moustache était dans la même position 28 ans après. David, Pilar Abel était une voyante et cartomancienne originaire de Gironès, dans le nord-est de l'Espagne. Persuadée que sa mère et Dali ont une liaison en 1955, elle entame alors des démarches pour prouver un lien de parenté. Alors, est-ce qu'à votre avis...
J'ai comme l'impression que la réponse a déjà été donnée.
En régie, Stéphane, on m'a dit que vous avez dit une connerie. Donc, depuis tout à l'heure, on m'a dit, écoute bien, tu vas voir, il est planté. Il s'est planté
David,
tout seul.
C'est cadeau.
Alors, David, apparemment, c'est cadeau. Alors, okay. Allons-y, posez-nous la question.
Est-ce que cette Pilar était ou non la fille de Salvador Dali? Ok, attends.
Regardez bien, regardez bien son visage.
J'ai merdé. Voilà.
Comme ça, je dirais que non.
Bonne réponse. Oh, non, attends, oui. Alors, question qui vous départage tous les trois. Dans l'histoire des États-Unis, les Amérindiens n'ont pas eu le droit tout de suite à la nationalité américaine. De quelle année date le Indian Citizenship Act qui a permis aux Indiens d'Amérique, aux Amérindiens donc, de devenir américains?
Oula. Et c'est étonnant parce que c'est récent. Oui, on ne peut pas donner d'informations.
Ah, vous donnez de... Il y a...
On est suspendu à voler, Stéphane. Hein, pour
non, mais en réfléchissant, si vous réfléchissez bien, on peut trouver.
Je peux en donner deux.
Tu veux pas non plus qu'on t'offre la victoire?
Alors, Mathieu.
Mais pourquoi moi d'abord? Pousse d'abord. Moi, je dis toujours en premier.
Moi, j'ai dit 1922, ouais. À 100 ans.
Moi, j'ai dit 1912.
Ouais.
Et moi, j'ai dit 1865.
C'est Olivier Pousse.
Et c'est quelle année?
1924. L'indice que je vous donne, c'est la Première Guerre mondiale. Ils se sont battus dans les troupes après, américaines. Et après, évidemment, vous pouvez difficilement leur dire « Vous êtes battus avec les Américains, on ne vous donne pas de nationalité. » Donc c'est vrai que la Première Guerre mondiale a souvent eu des effets sur les lois.
Poulce s'échappe.
Bravo. Ouais. J'en ai bien peur pour vous, les amis.
C'est une échappée belle, belge. Magnifique, Olivier. Belle victoire. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève ainsi. Il était consacré aux amateurs de piscine. Stéphane, vous qui en Grèce mettez un point d'honneur à ne jamais vous baigner dans la mer, mais uniquement dans votre piscine à débordement, j'imagine que vous y passez beaucoup de temps.
Oui, j'aime bien, j'aime bien.
Vous, est-ce que vous avez des petites bouées ou
un gros canard jaune, un canard fluo?
Rien du tout. Je fais quelques longueurs et puis après, voilà, le matin, puis le soir et puis basta.
Merci beaucoup en tout cas pour ces informations sur votre vie personnelle, Stéphane. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve lundi et vous connaissez le programme.
Oui, ils ont tout gagné.
Pas chance, mais qui ça?
Nos personnages du jour, Mathieu. John Churchill, ancêtre d'un certain Winston, devenu le duc de Marlborough, qui a gagné toutes les batailles pour le compte de la couronne britannique. Et un personnage fictif au succès qui, lui, est bien réel en littérature autant qu'au cinéma, c'est Ben Hur.
Ah, et moi, je vous raconte un japonais qui a tout gagné aussi, Akuho Sho, qui n'est autre que le meilleur sumo du monde et même de tous les temps. Bref, ça va envoyer du lourd, si vous voyez ce que je veux dire.
Ah oui, je vois. D'ici là, oui.
Bon, d'ici là, bon week-end, Stéphane. Oui.
À lundi, Mathieu. Non, mais reposez-vous là, oui, je sens que vous avez besoin.
J'en ai besoin. Vous aussi.
Bon week-end à suivre sur Europe 1. C'est la semaine politique Europe 1 par Image JDD avec Pierre de Villeneuve.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.